Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Canal Académie, restez avec nous pour cette nouvelle émission d'un jour dans l'histoire. 800 ans, un bel anniversaire, j'allais même dire un très bel anniversaire, celui d'un ordre religieux, les franciscains. En effet, c'est en 1209 que le pape Innocent III approuva non pas une règle, mais un simple programme de vie. La différence est importante, nous le verrons. Un simple programme de vie rédigé par saint François d'Assise. Canal Académie s'était penché sur l'historiographie en présentant avec Jacques Dallarin les fameuses sources franciscaines. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de découvrir la vie, tout simplement, de saint François d'Assise avec André Vaucher. André Vaucher, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Paris-10-Nanterre. Vous avez été directeur de l'École française de Rome de 1995 à 2003, membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Vous êtes un spécialiste de la spiritualité médiévale. D'ailleurs, nous avons enregistré ensemble une émission sur la spiritualité médiévale, notamment autour de la personnalité, enfin de Saint-Michel, personnalité ô combien importante, d'ailleurs, au Moyen-Âge, puisque je crois que c'était un des saints préférés de François d'Assise. Alors, André Vaucher, il existe des centaines d'ouvrages sur saint François. Pourtant, un travail de renouvellement reste possible ?
Absolument. Je commence au début de mon livre par m'excuser presque d'en rajouter un ouvrage de plus à la liste impressionnante des livres consacrés à saint François, le livre Le Tout Genre. Mais je n'ai pas quand même eu trop d'hésitation dans la mesure où, d'une part, beaucoup de ces livres ne sont pas des ouvrages historiques, mais des ouvrages de spiritualité ou de réflexion chrétienne, ce qui est parfaitement légitime. Personnellement, j'ai appelé mon livre François d'Assise parce que je voulais bien me démarquer et signifier que j'approchais ce personnage en historien. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que j'ai le moindre doute sur sa sainteté. Et je parle beaucoup de sa vie religieuse, de sa spiritualité, mais il m'a semblé important qu'il y ait une approche historique. D'autre part, la question franciscaine, comme on dit chez les spécialistes, a été beaucoup renouvelée depuis surtout une quarantaine d'années. Ça paraît un peu étonnant parce qu'on n'a pas fait des découvertes sensationnelles, mais il y a eu beaucoup de travaux, en Italie en particulier, de recherches, de colloques, de publications, de rééditions améliorées des sources. Et donc tout cela a fait que le moment était venu, je pense, de produire une nouvelle synthèse parce que véritablement, on y voit beaucoup plus clair qu'il y a 40 ans dans l'approche historique de François d'Assise.
Il s'agit de sortir du mythe, de sortir de la légende, je vous cite. Il s'agit de présenter non pas un François précurseur des temps modernes ou le héros poétique d'une fusion harmonieuse entre l'homme et la nature, mais un personnage ayant vécu dans l'Italie communale entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle.
Voilà, il s'agissait aussi de réagir de ma part contre certaines idéalisations qui ont commencé surtout au XIXe siècle, mais qui ont continué encore pendant la première moitié du XXe. Non pas encore une fois que le personnage ne soit pas un modèle, mais on l'a parfois mal interprété dans la mesure où on en a fait une sorte de, je veux dire, un moment de météorite spirituelle, c'est-à-dire comme s'il était vraiment tombé du ciel à tous les sens du terme, et dans un monde qui ne l'attendait pas, qui n'était pas préparé et qui avait apporté une nouveauté absolue. Je crois qu'il a apporté une grande nouveauté, mais je pense qu'il est aussi le point d'aboutissement de tout un renouvellement qui s'est produit dans la chrétienté à partir du XIIe siècle, et en particulier en Italie, et surtout dans les milieux laïcs, car on oublie parfois cette dimension fondamentale que François n'est ni un moine ni un clerc, c'est un laïc. Et en tant que tel, donc, il est tout à fait étranger au monde des écoles, au monde de la théologie. Il sait mal le latin, il le sait un peu, mais il fait grosse faute quand il l'écrit. Bref, ce n'est pas un homme de la haute culture savante cléricale. Et donc, il faut le situer dans la ligne de ces mouvements laïcs qui, en Italie, avaient commencé déjà dès le milieu du XIIe siècle et qui mettaient l'accent sur un retour à l'évangile, en particulier à la pauvreté. Voilà. Donc, je crois que c'est dans cette perspective-là qu'il faut bien le situer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas à son tour réagi sur l'histoire. Je crois, au contraire, c'est un personnage qui a beaucoup influencé l'histoire du christianisme. Après lui, le christianisme ne sera plus le même sur la vie des ordres religieux, de l'Église, etc. Mais il ne faut pas le voir uniquement comme l'incarnation d'une nouveauté désincarnée. Il est le point d'aboutissement d'une histoire qui l'a précédée, dont il est l'héritier et le sommet peut-être.
Alors, je vais commencer par le commencement, c'est son nom. Il ne s'appelait pas François réellement, visiblement il s'appelait Jean. En revanche, il est bien d'Assise.
Voilà, alors Assise, il n'y a aucun doute. L'histoire du prénom est plus compliquée parce que, bon, d'après les sources, il aurait été donc baptisé sous le nom de Jean et son père, qui était parti en voyage d'affaires, peut-être outre-mont, peut-être jusqu'aux foires de Champagne, du côté de Provins ou Bar-sur-Aube, de retour à Assise et voyant ce bébé, l'aurait en quelque sorte débaptisé et lui aurait donné un nom un petit peu étrange pour l'époque, de Francesco. Donc, il ne faut pas surévaluer cet épisode. Certains en ont déduit que sa mère était française ou d'origine picarde. Enfin, il y a eu toutes sortes de légendes là autour. Ne fantasmons pas, nous n'en savons rien, donc il vaut mieux ne rien dire. Et ce qui est certain, c'est que François, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds en France, est très marqué par l'influence française. Enfin, il le sera quand il sera grand, bien sûr, adolescent et adulte, dans la mesure où nous sommes à une époque où l'Italie est complètement envahie par la culture française, la culture courtoise, la culture chevaleresque. Et François parlera, chantera en français. Mais si vous voulez, comme aujourd'hui, des jeunes français peuvent chanter en anglais ou en américain sans être forcément des spécialistes de la langue.
Alors, vous l'évoquiez, il y a un personnage qui est très important dans sa jeunesse, c'est son père. Et alors, on parle aujourd'hui, puisque souvent dans votre livre, pour éclairer votre propos, vous prenez des exemples aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on parle de la révolte de la jeunesse, de la contestation de la jeunesse. Or, il y avait autant de contestations au Moyen-Âge dans le monde de la jeunesse. Et François en est un exemple.
Absolument. Nous sommes à un tournant. Là encore, il n'est pas exceptionnel. On connaît pas mal d'autres cas similaires aux siens, aussi bien d'ailleurs chez les hommes que chez les femmes, des jeunes hommes ou des jeunes femmes, qui autour de 1200 se révoltent en quelque sorte contre l'autorité paternelle et surtout contre l'image du père, dans la mesure où leurs parents, leur père, étaient des nouveaux riches, des gens qui avaient fait fortune. Il y avait toujours eu des riches dans la société médiévale, bien sûr, mais c'était plutôt des seigneurs, des gens qui avaient de la puissance. Tandis que là, à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, et surtout vers 1200, on a affaire à un nouveau type de fortune, on pourrait appeler ça aujourd'hui du pré-capitalisme, des gens qui s'enrichissent en particulier par le commerce, qui est parfaitement légitime, mais aussi et surtout par le prêt à intérêt, par ce qu'on appelle l'Église dénonce sous le nom d'usure, et donc qui souvent réduisent à la misère leurs débiteurs, au moins aussi durs, sinon davantage, que les féodaux de la vieille aristocratie. Et donc, ce qui révolte François chez son père, c'est cette dureté, cette âpreté au gain, si vous voulez. Et lui, grâce à la richesse de son père, il a un certain niveau de vie. Il vit comme un aristocrate, même s'il n'est pas noble. Il est tout à fait roturier. Mais il aspire à mener une vie chevaleresque, une vie qui soit au-delà du gain, de l'accumulation. Et il en gardera une haine de l'argent, à tel point qu'il interdira à ses disciples d'avoir de l'argent dans leur poche ou dans leurs vêtements, enfin, d'avoir le moindre contact physique, une espèce d'horreur de l'argent, qu'il faut bien situer là encore dans le contexte d'une économie en expansion, où l'argent n'était pas si abondant qu'aujourd'hui. Et donc, on avait l'impression que si quelqu'un accumulait de l'argent, thésaurisait, eh bien, il ne pouvait le faire qu'aux dépens de quelqu'un d'autre. Et donc, celui qui s'enrichissait, à moins que ce soit pour investir, mais s'il s'enrichissait pour thésauriser, appauvrissait son voisin qui, lui, n'avait pas les moyens d'en faire autant.
Mais est-ce à dire que son idéal, qui est un idéal chevaleresque, même s'il est contre la personnalité de son père, est-ce un idéal qui existe encore dans cette Italie du XIIe et du XIIIe siècle ?
Ah oui, oui, non seulement elle existe, mais je dirais que jamais elle n'a autant existé, parce que justement l'Italie des années 1200 subit de plein fouet le contre-coup, l'influence de cette culture chevaleresque et courtoise qui s'est élaborée en France. Alors la culture chevaleresque plutôt dans la France du Nord, en Champagne, en Normandie, etc. Et puis même au-delà, vers l'Angleterre, la culture, disons, arthurienne, tous ces cycles d'influence celtique, etc., qui ont eu un tel rayonnement en France dans les années 70-80 et qui passent en Italie dans ces moments-là. Et puis dans le sud de la France, qui n'est pas encore la France à ce moment-là, le pays de Languedoc, là on a une culture plutôt courtoise, c'est-à-dire au sein de l'aristocratie, des rapports plus subtils, disons, entre hommes et femmes, entre seigneurs et leurs vassaux, dans le cadre des cours féodales. Voilà. Alors, ces deux influences culturelles fondamentales passent en Italie très rapidement, puisque l'Italie est évidemment communiquée beaucoup avec la France. Au début, ça touche surtout la noblesse. Et puis, vers 1192, l'époque où François grandit, devient un adulte, ça finit par pénétrer même dans la bourgeoisie, parce que c'était un bourgeois, mais un bourgeois qui aspirait à vivre noblement. et à devenir un preux, un chevalier, à faire ses exploits sur les champs de bataille.
Alors, il vit dans cette Italie, et dans cette Italie du XIIIe, il y a ces fameuses oppositions entre les villes, et vous le montrez un moment, il est prisonnier à Pérouse, donc dans un cadre conflictuel où il veut réaliser cet idéal guerrier.
Tout à fait. François est fils de son temps, là encore. Et nous sommes à l'époque du mouvement communal. Le mouvement communal, c'est un mouvement d'autonomie, d'accession à l'autonomie des villes italiennes qui veulent s'administrer elles-mêmes et ne plus dépendre de l'empereur en particulier. Et c'est le cas dans cette région de l'Ombrie où il y a des révoltes à partir de 1197 avec la mort de l'empereur Henri VI. Il y a des révoltes contre l'autorité impériale et les villes comme Assise ou Pérouse, sa voisine, y parviennent à se rendre, sinon indépendantes, du moins largement autonomes. Alors, le contre-coup de cet accès à l'autonomie, c'est que chaque ville essaye de s'emparer, de mettre la main sur ce qu'on appelle en italien le contado, c'est-à-dire la campagne environnante, de façon à créer une sorte de cité-État autonome. Évidemment, dans ce processus, les conflits existent et éclatent avec les voisins, parce que chacun essaie de s'emparer des territoires qui sont parfois marginaux entre les deux. Et donc, très vite, cette nouvelle organisation fondée sur des communes libres aboutit à des guerres, très violentes d'ailleurs souvent, entre telle ou telle ville, et en l'occurrence entre Assise et
Alors Pérouse. Comment, c'est un peu dans ce contexte que va se réaliser une véritable conversion, comment va s'opérer cette conversion, c'est ce que je vous propose de voir André Vaucher dans un instant.
Qu'y a-t-il au fondement des sociétés humaines ? Canal Academy vous propose de plonger dans la grande histoire de l'homme avec Maurice Godelier, médaillé d'or du CNRS. L'anthropologue, prix Louis Castex de l'Académie française 2008, bouscule les idées reçues et s'élève contre les grandes figures de la discipline. Surprenant, il parle à bâton rompu d'un monde en perpétuelle métamorphose. Qu'y a-t-il au fondement des sociétés humaines ? Une émission au fil des pages à retrouver dès maintenant sur canalacademy.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à François d'Assise. Je reçois André Vaucher. Je m'aperçois, non sans honte, que je n'ai pas cité le titre de votre ouvrage, donc François d'Assise, et non pas Saint François d'Assise, paru aux éditions Fayard, donc cette année. Nous avons campé un peu le contexte, ces villes italiennes de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, l'idéal guerrier que se donne ce jeune François. Or, ce jeune François va se convertir. Est-ce qu'on peut dire qu'il se convertit du jour au lendemain ?
Non, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai évité la parole conversion et que j'ai préféré appeler ça le retournement, parce que c'est un processus qui a duré un certain nombre d'années, au moins deux ou trois, donc rien de foudroyant. Au départ, François part pour une expédition militaire qui devait le conduire en Pouille, en Italie du Sud, qui devait lui procurer la gloire sur les champs de bataille, peut-être une belle épouse au retour, un château, qui sait. Donc, ce sont des rêves de gloire. Et puis, tout cela s'effondre. D'abord, il tombe malade. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas rejoindre l'expédition qui s'en va vers le sud. Et puis, il commence à avoir des doutes. Alors, ses biographes nous présentent ça comme des songes, des rêves, des visions. Il n'y a pas de raison de le mettre en doute. Simplement, disons que c'est surtout l'expression d'un malaise. Alors, d'où vient ce malaise ? Il semble que François, dans ces moments-là, donc, autour de 1206, ait pris conscience, disons, des limites de son ambition. Il voulait devenir un brillant guerrier, un brillant chevalier. Il est amené à revenir sur lui-même, à s'interroger peut-être sur ce programme de vie qu'il s'était fixé. C'est là justement qu'il y a un processus de maturation qui s'opère, et lentement, et il cherche sa voie, comme on dit aujourd'hui. Et il prend conscience progressivement qu'il ne renie pas son idéal de grandeur, de largesse chevaleresque, mais il prend conscience que c'est absurde, à la limite, de vouloir le restreindre, comme c'était le cas dans la culture et dans la société du temps, à une élite. Parce que la culture courtoise chevaleresque, c'était une culture entre pairs, entre égaux, entre les gens de la bonne société, même de la haute société, les classes dirigeantes. Et François ne renie pas cet idéal de générosité, de largesse, mais il veut l'étendre au monde entier, l'étendre à tous les hommes. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il ne peut le faire qu'au prix d'une conversion. Et le déclic est produit par une rencontre avec les lépreux, non pas le baiser aux lépreux, comme on dit, qui est déjà une interprétation, une relecture a posteriori, mais une rencontre avec des lépreux, bien sûr qu'il en avait déjà rencontré, mais jusque-là, il les avait toujours fui comme quelque chose d'abject, comme tout le monde, c'est la réaction spontanée. Et là, il accomplit un exploit de type chevaleresque. Au lieu de les fuir, il va vers eux et bon, il les embrasse ou il les soigne, on ne sait pas. Et à ce moment-là, dit-il, je me suis senti transformé, je me suis senti un autre homme. Et il comprend à ce moment-là que sa quête, ses aspirations n'ont de sens que justement s'il élargit sa charité, son amour, à l'ensemble de l'humanité, en particulier à l'humanité souffrante, pauvre, malade, lépreux, etc. Et à la suite du Christ. Et à ce moment-là, il fait la connexion, qu'il n'a peut-être pas opérée avant, avec l'Évangile. Et il acquiert la certitude que c'est dans le Christ, précisément, que tout cela a été déjà réalisé au niveau des évangiles, le Christ des évangiles. Et donc, il va ensuite essayer de revivre toute sa vie jusqu'à la fin, comme le Christ a vécu d'après les évangiles.
Mais alors, pourquoi ne pas entrer dans un monastère? Pourquoi cette conversion ne crée pas une démarche, au fond, institutionnelle? C'est-à-dire qu'il y avait des institutions religieuses, pourquoi ne se rend-il pas vers elles?
Vous avez raison, il y avait effectivement beaucoup de formes de vie religieuse consacrées, déjà reconnues par l'Église, ne serait-ce que le monachisme qui était extrêmement bien représenté. Autour d'Assise, il y avait de grands monastères. Mais François, visiblement, n'est pas tenté par le monachisme pour deux raisons, je crois, même s'il n'a jamais fait de discours théorique là-dessus, mais on le sent. D'une part, ces moines étaient devenus des grands propriétaires, des seigneurs. Au fond, ils vivaient, bien sûr que individuellement, ils étaient pauvres, mais collectivement, ils étaient riches. À 30 km d'Assise, exactement à l'époque où François se convertit, il y avait un grand monastère où on construisait un cloître absolument somptueux, orné de mosaïques dorées, enfin bref. Le comble du luxe et de la beauté d'ailleurs, mais enfin, du luxe. Donc, visiblement, ça ne convient pas à son tempérament axé justement sur la pauvreté. Et d'autre part, un des caractères nouveaux de François et de sa spiritualité, c'est de ne pas mépriser le monde. Parce que la vie monastique était quand même fondée sur le retrait du monde, la fuite du monde, considéré comme dangereux pour le salut, etc. Et lui va inverser la démarche en disant « Mais bien sûr, il faut prier, il faut avoir des temps de méditation, de solitude, mais il ne faut pas fuir le monde parce que le monde, d'abord, il a été créé par Dieu, même s'il est vicié par le péché, il est quand même bon fondamentalement. Et d'autre part, il faut apporter l'évangile aux hommes. Et donc, si on s'enferme dans un monastère, toucher les hommes, à diffuser le message évangélique. Donc, pour cette double raison, il n'est pas tenté d'entrer dans la vie monastique. Et alors, vis-à-vis du clergé séculier, il est très respectueux. Il dira plus tard à ses disciples, respectez les prêtres, obéissez-leur, etc. Mais là encore, je crois que François, tout en étant un fils et un serviteur dévoué de l'Église, ne croit pas beaucoup aux institutions et est un peu sceptique devant les institutions. Et le clergé de l'époque, il faut bien dire aussi, n'était pas exemplaire, loin de là. Donc il a préféré créer un nouveau mode de vie religieuse, une nouvelle forme de vie religieuse, de prédication itinérante dans la pauvreté, plutôt que d'adhérer à un organisme existant quelconque. Oui. En plus, comme je le disais, il était quand même de formation laïque, il n'avait pas fait d'études, il savait un peu de latin, mais mal. Donc il n'était pas non plus préparé pour devenir, je ne sais pas, chanoine ou dans une cathédrale, ou une chose comme ça. Oui.
Alors, il y avait un danger, en quelque sorte, à cette attitude. Vous le disiez tout à l'heure, il y a une crise de l'Église, en tous les cas institutionnelle. Il y a une contestation de la part de ces laïcs. Est-ce que Saint François s'inscrit dans cette contestation, ou au moins, est-ce qu'il s'inscrit dans ce mouvement religieux général que l'on constate chez les laïcs et qui parfois va même jusqu'à la création d'hérésies qui sont formellement condamnées?
Effectivement, là aussi, il se situe dans un contexte extrêmement mouvementé. Nous sommes à l'époque du développement de mouvements contestataires au sein de l'Église ou contre l'Église. Les Vaudois en France et en Italie du Nord, ceux qu'on appellera les cathares, qu'on appelait les bons hommes au Languedoc, mais il y en avait aussi beaucoup en Italie. Bref, il y a toute une contestation de l'Église, surtout de l'Église comme puissance, justement, comme pouvoir à une époque où la papauté était plus puissante et plus riche que jamais. Et donc, il y a une forte contestation contre laquelle l'Église réagit à partir de la fin du XIIe siècle en lançant des condamnations pour hérésie. Ce qui est une façon d'ailleurs de fausser le débat parce que ces gens-là, a priori, n'étaient pas hérétiques au sens doctrinal. C'était simplement des gens qui auraient voulu ramener l'Église à plus de modestie et d'authenticité évangélique. Donc François court un gros risque en jouant tout seul parce qu'il pouvait être assimilé justement à ce genre de prédicateur itinérant. Le clergé voyait d'un mauvais œil parce qu'on les soupçonnait d'être de sorte de propagandistes d'idées subversives ou critiques vis-à-vis de l'organisation ecclésiastique. Il a bénéficié, semble-t-il, du soutien de l'évêque d'Assise, qui le connaissait personnellement, qui l'a pris sous sa protection. Il a vécu en ermite pendant 2 ou 3 ans, en attendant justement de trouver sa voie. Et puis, dès qu'il l'a trouvé et que des compagnons sont venus le rejoindre, il est allé voir le pape. Donc, il est bien conscient du fait qu'on ne peut pas, dans l'Église de son temps surtout, agir en franc-tireur. Et donc, il ne craint pas d'aller à la rencontre, disons, de l'autorité ecclésiastique. Et là, il s'est passé quelque chose, nous ne saurons jamais quoi, un déclic, disons. C'est-à-dire que cette rencontre avec le pape est un peu folle quand on y pense, puisque François était à la tête d'un groupe d'une douzaine de personnes, même s'ils étaient le double, c'était rien du tout. Il arrive à se faire recevoir par un cardinal, puis par le pape. Sans doute que sa personnalité, sa sincérité, son humilité aussi ont dû faire une certaine impression sur le pape, qui donc, en 1209, c'est là le centenaire qu'on célèbre cette année, autorise la poursuite de l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il l'approuve, parce qu'il ne lui donne pas de texte écrit. Il l'approuve oralement, ce qui lui permettait, si les choses avaient mal tourné, de mettre fin à l'opération en disant qu'il ne s'était rien passé. Il faudra attendre 1223, donc 14 ans plus tard, pour que la papauté, rassurée sur l'orthodoxie du mouvement, voyant son succès incroyable, énorme, dans l'Italie et toute la chrétienté, finisse par approuver une véritable règle.
Vous dites que le pape apprécie en quelque sorte le regard lucide de François sur l'Église.
Voilà, lucide dans ce sens que François... D'abord, ce n'est pas un illuminé.
Alors qu'au départ, nous ne l'avons pas dit, il était considéré un peu...
Il était considéré comme une sorte d'excentrique, au moins, dans son milieu d'assise. Non seulement il n'est pas un illuminé, mais il ne fait pas la morale à l'Église. Il n'accable pas l'Église de reproches ou de critiques. Il se présente comme un homme humble, un pauvre homme, il le dit, je suis qu'un pauvre laïc, un culte, mais... Dieu m'a confié une mission, il n'hésite pas, il l'écrira d'ailleurs son testament, à se revendiquer une sorte d'inspiration, d'appel divin. Dieu l'a appelé à faire de grandes choses, en particulier justement à réactualiser l'évangile dans la société du temps. Et bon, il a dû être assez convaincant pour qu'au moins on l'ait laissé faire.
Donc il fait, comme l'on dit, bonne impression. Comment se crée au fond cette communauté ? Vous présentez un ordre qui croît de manière quasi inédite.
Alors c'est un véritable phénomène de boule de neige. À partir du moment où justement il a eu la caution du pape, ça se sait très rapidement, donc on cesse de le soupçonner d'être un hérétique ou un vagabond, et il a énormément d'adhésions tout de suite. Il est presque même dépassé rapidement par le succès, parce que des tas de gens viennent se joindre à lui, et comme il fait confiance aux gens, il admet tout le monde, enfin, sauf évidemment les gens qui étaient empêchés, qui étaient mariés. Par exemple, si les conjoints acceptaient de se séparer, ben, il acceptait le mari dans sa fraternité. Et puis, il y avait aussi, à partir de 1212, n'oublions pas, des groupes féminins, autour de Claire d'Assise. Voilà. Donc, il y a un succès énorme. Pourquoi ce succès ? Parce que ce nouveau mouvement apparaissait donc d'un accès facile. Il n'y avait pas besoin d'avoir fait un noviciat ou des études pour y entrer. Il suffisait de promettre fidélité à François et de jurer de vivre selon l'Évangile. Ce qui n'était pas rien, mais enfin bon. Et puis d'autre part, ça correspondait vraiment à l'attente des gens, dans la mesure où on leur tenait un langage direct et simple, qu'ils étaient capables de comprendre, et par des gens qui vivaient comme ils le disaient. Ça, c'est un des grands thèmes aussi, un leitmotiv chez François. Il dit qu'il faut toujours se méfier quand nous faisons des sermons, des prédications. Attention de ne jamais rien dire ou de dire aux autres de faire des choses que nous ne faisons pas nous-mêmes. Oui. Donc toujours avoir une cohérence parfaite entre le dire et l'agir. Et là aussi, au moins dans les premiers temps, ça a dû paraître quelque chose d'assez extraordinaire. Ça a suscité donc des adhésions nombreuses. Si bien que le mouvement en Italie centrale, très rapidement, décolle. Un peu dans tous les milieux, il y a à la fois des gens du peuple, des paysans, et puis des bourgeois, des clercs, il y a même des prêtres qui viennent assez rapidement se joindre à lui, des nobles. Donc c'est un mouvement interclasse, c'est pas non plus un mouvement avec des tensions internes, évidemment, tout de suite, puisque se convertir pour un paysan pauvre, c'était pas la même chose, ça ne représentait pas un grand changement de vie, vu qu'il était pauvre de toute façon, alors que pour un avocat ou un seigneur, c'était un bouleversement complet. Et puis les rapports entre ces hommes qui étaient les uns cultivés et les autres complètement frustes, c'est pas non plus évident, quoi. On sent, d'après certains récits qui sont... figure dans les biographies de François qu'il y a eu des fortes tensions, et qu'il a passé son temps à essayer d'arrondir les angles.
Alors justement, quel était le charisme de François et le programme de vie qu'il prenait ? C'est ce que nous allons voir André Vaucher dans un instant.
Canal Académie dresse pour vous le portrait d'un peintre de renom, Élisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste officielle de la reine Marie-Antoinette. Partie en Italie au moment de la Révolution, elle parcourt Turin, Parme, Rome et Naples avant de voyager dans toute l'Europe pendant plusieurs années. Elisabeth Vigée-Lebrun, souvenir d'une grande dame de la peinture, une émission en compagnie de Geneviève Haroche-Bouzinac, à télécharger dès maintenant sur canalacadémie.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à François d'Assise. Je reçois André Vaucher, membre de l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, qui a écrit donc une biographie sur Saint-François, une biographie parue chez Fayard. Alors nous avons décrit, André Vaucher, les premiers temps de cette communauté, le rôle d'Innocent III. Je voudrais que nous nous arrêtions un peu sur le charisme de François et sur ses idées et son programme de vie. Il y a évidemment un paradoxe entre ce personnage, on va dire si chétif, qui ne possédait rien du tout, et puis cette aura extraordinaire, ce charisme extraordinaire qui aura des conséquences dans toute l'Italie. Comment expliquer ce paradoxe ?
Effectivement, le personnage, d'après les récits contemporains ou les témoignages contemporains qu'on peut avoir, ne semble pas avoir été impressionnant sur le plan physique. Il était petit, une petite tête, pas d'une beauté exceptionnelle, semble-t-il. Donc, rien de séduisant de prime abord. Mais tous ceux qui l'ont rencontré ont été, de toute évidence, fascinés par lui. Donc, c'est vraiment le type même du personnage charismatique. Alors, à quoi tient ce charisme ? C'est toujours très difficile à dire. D'autant plus que les témoins n'ont pas toujours été très prolixes dans leurs explications. Je crois que ce qui a beaucoup frappé les gens, c'est, comme je le disais à l'instant, son authenticité. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'avait pas un double langage, qui était totalement engagé dans ce qu'il disait. Cette adhésion totale à sa parole et cette volonté d'être cohérent totalement avec le message qu'il annonce. Et puis, c'est un homme aussi qui est extraordinairement proche des autres. Voilà, je crois qu'il, c'est peut-être ça qui a peut-être le plus frappé ses contemporains, c'est-à-dire que il s'adresse à des êtres de chair, des personnes concrètes, physiques, et il leur parle de ce qui leur tient à cœur. Il ne leur fait pas des grands discours. Une expression qu'il utilise beaucoup, c'est « en peu de mots ». Il dit toujours « faites ça en peu de mots ». Pas de phrases, pas de propos creux, allons à l'essentiel. Et même souvent, il ne parle pas, il préfère gesticuler. Alors ça, c'est aussi un aspect très important que nous avons un peu de mal à imaginer, mais pas tellement en fait. Il s'adresse à des gens, surtout dans les campagnes ou les périphéries des villes, qui n'ont absolument aucune culture au sens littéraire du terme. Donc même, ça, probablement, aurait été un peu imperméable à des discours un peu cohérents. Et il leur donne des signes visibles. Par exemple, à un moment, en particulier avec les femmes, parce que les femmes ne savaient pas le latin, les femmes n'allaient pas à l'école, enfin, sauf une minorité de princesses. Donc quand il est devant des femmes, eh bien souvent, il se contente de gestes. Par exemple, un jour, il va trouver la communauté de Sainte-Claire et de ses compagnes, et au lieu de leur faire un discours sur ce qu'il faudrait faire pour vivre en union plus étroite avec le Christ, eh bien, il se met au milieu d'elles. Elles le regardent un peu stupéfait, en disant « qu'est-ce qui va se passer ?» Et il prend des cendres dans un foyer et il se verse les cendres sur la tête. Alors, verser les cendres sur la tête, ça veut dire qu'il faut faire pénitence, il faut se repentir. Mais il ne dit pas un mot, il ne dit pas « mes sœurs, convertissez-vous ». Il se verse les cendres sur la tête. Ou alors, dans d'autres cas, il entre dans une ville, Assise, mais ça s'est produit aussi ailleurs, et il se fait tirer la corde au cou par un de ses frères. Bizarre. Pourquoi la corde au cou ? Parce que les gens commençaient à le considérer comme un saint, donc ils ne voulaient surtout pas apparaître comme une sorte de personnage fantastique. Et il se fait traîner sur la grande place de la ville, et là, devant tous les gens, est complètement ébahi. Il dit « En fait, je ne suis qu'un pêcheur, j'ai mangé de la viande en carême ou toute autre peccadille absolument insignifiante », mais il s'en accuse publiquement. Et les gens sont frappés par cette humilité extraordinaire, alors qu'ils savent que par ailleurs, c'est un homme qui vit de façon extrêmement pauvre et rigoureuse. Donc, il veut faire choc, vous voyez, par des comportements, par des attitudes, par des images, plus que par des discours.
Donc, la prédication reste importante, mais ce n'est pas un absolu.
Je dirais que c'est une sorte de happening plus qu'une prédication. Le mot prédication me met toujours mal à l'aise, dans son cas, parce que ça paraît quelque chose de purement verbal, voire rhétorique. Chez lui, d'abord, il n'y a aucune rhétorique, et ensuite, il associe, comme je disais, la gestuelle, le mime. Il mime des scènes entières. Il mime la mort de l'avare, par exemple, à un moment, de façon extraordinaire. Il raconte comment meurt l'avare qui oublie de donner ses biens aux pauvres, etc. Donc c'est quelqu'un qui est toujours en représentation, mais au meilleur sens du terme, bien sûr.
Quasiment théâtral, finalement.
C'est un homme de théâtre et c'est un langage qui porte parce qu'il correspond au vécu des gens.
Alors, il n'y a pas que des succès, il y a aussi des échecs, notamment les tentatives d'exporter, en quelque sorte, si on peut utiliser cette expression, ce modèle dans les autres pays, hors d'Italie. C'est un échec, vous dites, sauf en Angleterre. Mais il y a une question sur laquelle je souhaiterais m'arrêter, c'est la question de l'islam. Il y a vraiment un moment entre Saint-François et l'islam.
Absolument, je crois que c'est un des intérêts, peut-être pas principaux, mais enfin quand même essentiel du personnage, parce qu'il a, dès le début, à peine il s'est converti et a réuni quelques disciples, dès 1212, il essaye de passer en Terre Sainte. Bon, il y a une tempête, il est rejeté sur les côtes d'Italie, c'est un échec. Ensuite, il essaye d'y aller à pied par l'Espagne, il tombe malade, c'est un échec. Et il n'arrivera finalement à gagner le monde musulman qu'en 1219, en rejoignant la cinquième croisade qui était allée attaquer l'Égypte dans l'espoir d'obliger le sultan d'Égypte, qui contrôlait aussi Jérusalem, à lui rendre la Terre Sainte et Jérusalem. Mais il n'y va pas comme croisé, bien sûr, il n'a pas d'armes, ce n'est pas du tout son style. Il rejoint la croisade et là, il fait une démarche qui a paru tout à fait étrange aux croisés. Il faisait le siège de Damiette à l'embouchure du Nil. Après une bataille qui n'avait rien donné, il décide de partir avec un seul compagnon et sans armes pour traverser les lignes musulmanes et essayer de discuter directement avec le sultan, ce qui était encore une idée complètement folle. Il est désavoué par le cardinal qui dirigeait l'expédition, la croisade, qui lui dit « Bon, ben vas-y si tu veux, mais moi, je ne me porte pas garant. Si on te tue, ce sera de ta faute, tu iras bien chercher. » Il dit « J'y vais. » Et il part. Quand les Égyptiens le voient arriver, ils sont un peu... étonné, mais pas trop, parce qu'on pouvait s'imaginer que c'était quelqu'un qui venait négocier une trêve. Contrairement à ce qu'on a raconté après coup, il ne semble pas qu'il ait été bastonné ou maltraité. Et on le conduit devant ce sultan. Et alors là aussi, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Il semble qu'il y a eu vraiment un dialogue. Alors, il y a toutes sortes d'interprétations. Les sources sont parfois contradictoires ou peu claires. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé entre eux. Il semble que le sultan était impressionné par ce personnage dans lequel il a vu un homme de Dieu très rapidement, parce qu'il lui a offert des cadeaux, François les a refusés, donc visiblement il venait pas là pour chercher de l'argent. Il lui a proposé de se convertir à l'islam et il a refusé. Mais en même temps, François n'a pas attaqué Mahomet, parce que s'il avait attaqué Mahomet, il aurait été immédiatement tué ou décapité. Donc visiblement, il n'a pas fait d'agression verbale, il n'a pas pris un rebrousse-poil, disons, que les musulmans. Il a essayé de leur montrer, mais on ne sait pas trop comment, on n'a pas conservé de discours, évidemment, que finalement, chacun dans sa religion devait aimer Dieu davantage, voilà, que les chrétiens devaient faire un effort, et aimer les musulmans aussi, que peut-être on pourrait se retrouver au-delà en Dieu, quoi, en approfondissant son expérience de Dieu. Il se peut, mais là, c'est la pure hypothèse, qu'ils aient aussi discuté de la possibilité d'échanger justement ce qui se fera quelques années plus tard, que les musulmans rendent l'accès au Jérusalem et au lieu saint aux chrétiens et que les chrétiens cessent de faire des croisades contre eux. C'est ce qui va se réaliser en 1229 lorsque l'empereur Frédéric II, qui n'avait rien d'un saint mais qui était un homme avisé, va conclure un accord avec le sultan avec ce genre de clause prévoyant que les chrétiens peuvent... enfin, reprennent en main Jérusalem, sauf l'esplanade du temple, l'esplanade des mosquées. Et par ailleurs, ils s'engagent à ne plus attaquer, ne plus faire de croisade contre l'islam. Bon, ça ne tiendra pas longtemps parce que, comme souvent ce genre de choses, il y a des extrémistes des deux côtés qui ont, 15 ans après, Jérusalem était retombée entre les mains des musulmans. Donc, le compromis n'a pas tenu. Mais il n'est pas exclu que la démarche de François, disons, ait préparé le terrain.
Vis-à-vis de l'islam, il a une vision finalement très mesurée des choses et notamment de ce qu'on appellerait aujourd'hui le dialogue religieux ou le dialogue interreligieux, puisqu'il ne prône pas le martyr. Il demande une juste appréciation, j'allais dire, du contexte dans lequel porter le message évangélique.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure quand même l'hypothèse qu'il ait non pas cherché le martyr pour lui-même, mais il était prêt, je crois, les sources franciscaines en tout cas le disent toutes, et à mon avis c'est quand même pas faux, il était prêt à aller jusqu'au martyr. Le sultan ne lui a infligé aucune souffrance, aucun martyr, mais il était prêt à cela parce que François, au fond, était très marqué, comme tous les chrétiens de l'époque, par le témoignage des apôtres. Or les apôtres du Christ, avaient converti qui l'Asie mineure, qui l'Italie ou la Grèce, mais à la fin de leur vie, ils avaient tous, pratiquement sauf Saint Jean, été martyrisés. Donc le passage au martyr faisait partie, si je peux dire, du programme apostolique. Si on voulait vivre comme les apôtres, il fallait accepter la perspective du martyr. Bon, lui, il ne l'a pas subi, mais à mon avis, il était prêt à le subir. Et peut-être même qu'il était allé trouver le sultan dans l'idée, non pas, encore une fois, de se faire infliger le martyr par masochisme, mais parce qu'il pensait que ce témoignage de foi pourrait entraîner l'adhésion de l'islam au christianisme. Bon, peut-être qu'il se faisait probablement des illusions, mais en tout cas, je crois que cette préoccupation, cette conviction était présente en lui. Bon, finalement, il ne se passe rien. Le sultan le renvoie avec toutes sortes d'égards. Il n'est pas martyrisé. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est le prolongement de tout ça, parce que tout ça se passe donc en 1219, 1220. Et quand il rentre en Italie, quelques mois après, François est obligé, par la papauté, fait pression sur lui pour qu'il canalise, qu'il structure son ordre, qu'il en fasse un véritable ordre religieux. Et là, il ne peut pas se dérober parce que, en son absence, il s'était passé toutes sortes de choses pénibles. Et donc, il comprend que même si lui-même n'aime pas les institutions, ben, il faut bien passer par là. Et donc, sinon, sa fraternité va exploser dans tous les sens. Donc, il accepte l'institutionnalisation et il ne veut pas se laisser imposer une règle de type monastique comme celle de Saint-Benoît ou de Saint-Augustin. Donc, il décide d'écrire une règle. Et en 1221, avec ses compagnons les plus proches, il élabore une règle. Et dans cette règle, il y a un passage extraordinaire sur la façon d'aller chez les Sarrasins, c'est-à-dire chez les musulmans. Et il dit, au fond, si on veut convertir les musulmans, eh bien, il y a deux façons de faire. Ou bien on va simplement vivre au milieu d'eux, mais sans en faire de discours, en donnant simplement un témoignage de vie, d'amitié. On vit au milieu d'eux, mais sans faire de prosélytisme, comme on dirait aujourd'hui. Ou bien alors, si les circonstances sont favorables, si le contexte s'y prête, eh bien, à ce moment-là, on peut parler de Jésus-Christ, annoncer l'évangile, etc. Et ce texte, tellement en avance sur son temps, l'idée d'une présence pacifique, muette, au milieu des musulmans, de la part de chrétiens, un simple témoignage de vie et de fraternité, que dans la règle 1223, celle qui a été approuvée par la papauté, ce passage est tombé parce que ça paraissait complètement fou. Donc au XXe siècle, on a retrouvé ça, des gens comme le père de Foucault, aller vivre seul au milieu des musulmans. Mais il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on redécouvre cet aspect de la pensée de François d'Assise qui avait été complètement occulté parce que c'était beaucoup trop révolutionnaire pour l'époque.
Alors justement, il y a une révolution franciscaine, même si vous parlez-vous d'une utopie franciscaine. Il y a une opposition aussi entre vie contemplative et vie active. Saint François termine quasiment comme un ermite, ou non pas seul puisqu'il est entouré, mais en tous les cas, vous le montrez dans les dernières années de sa vie, en paix intérieure, après tous les mouvements qui ont déchirer le groupe, il retrouve cette paix intérieure. Et quels sont le mot d'or, le testament, vous parliez de testament tout à l'heure, est-ce un testament de vie contemplative, de vie active ou bien de...
Dès le départ, il a cherché un équilibre entre les deux. Les circonstances y ont été plus ou moins favorables, mais il est persuadé à la fois qu'il faut des temps de solitude, de prière, et donc chez les franciscains, il y a eu au cours des siècles ensuite, des ermitages où les frères se retiraient à certains moments pour, dirais aujourd'hui, recharger leur batterie spirituelle entre eux, sans faire d'apostolat, en vivant 15 jours, un mois, complètement perdus dans la nature et sans contact avec le reste de l'humanité, si ce n'est pour le ravitaillement. Et puis d'autre part, des temps d'apostolat, de prédication itinérante, voilà. Et François, bon, c'est vrai qu'à la fin de sa vie, disons, la dimension contemplative est plus importante, mais c'est lié aussi au fait qu'il est malade. N'oublions pas qu'il est revenu gravement malade d'Orient, il est de plus en plus malade. Il ne peut plus, comme il le faisait au début, tout le temps sur les routes, à prêcher, passer d'une ville à l'autre. Mais jusqu'à la fin, même encore à 6 mois de sa mort, un an avant sa mort, il fait encore une grande tournée de prédication itinérante, parce que c'est quand même l'annonce de l'évangile qui est fondamentale. Donc, un binôme, si vous voulez, une association action-contemplation qui, lui, est absolument fondamentale. Alors, est-ce que tout cela constitue son dernier mot, son testament spirituel ? Dans son testament, ce qu'il veut absolument rappeler à ses frères, c'est que, d'abord, ils doivent être soumis à l'Église. Ça, c'est très important, parce qu'il voit déjà point des tensions. Bon, les frères sont des gens passionnés, généreux, etc. Et souvent, ils arrivent dans des endroits où les curés sont lamentables, concubinaires, immoraux, tout ce que vous voulez. Et donc, il y a un danger que les frères mineurs ne veuillent remplacer les curés, en quelque sorte, considèrent qu'ils sont meilleurs qu'eux et essayent de prendre leur place. Or, François leur dit « Non, non, vous devez les aider, vous devez les soutenir, mais vous ne devez pas, concrètement par exemple, ça veut dire vous ne devez pas confesser. Si quelqu'un vient vous parler de ses péchés, vous lui parlez, vous le consolez, mais vous l'envoyez chez le prêtre ensuite pour être absous. Ce n'est pas à vous de l'absoudre, même si vous êtes prêtre. » Voilà, donc il veut bien distinguer les choses pour qu'il n'y ait pas de concurrence, de conflit entre son ordre et le clergé séculier. Et malheureusement, François avait bien vu les choses, puisque 30 ans après, il y aura une véritable crise autour des années 1250 et suivantes, non seulement en France, mais presque dans toute la chrétienté, entre les frères mineurs considérés comme un clergé d'élite, en quelque sorte, et puis le bas clergé, mal formé, assez médiocre, qui verra les frères comme des concurrents et non pas comme des aides ou des soutiens. Puis d'autre part, il les rappelle sans arrêt à la pauvreté, en disant, n'oubliez pas que nous devons nous comporter comme des pèlerins en ce monde, des gens qui passent. Donc lui, il finit par admettre, par exemple, à la fin de sa vie, que les frères puissent avoir des couvents. Mais ça ne lui plaît pas, parce que son rêve, ça aurait été vraiment que les gens soient en itinérance perpétuelle, qu'ils ne puissent s'enraciner partout, qu'ils n'aient pas de maison à eux. À un moment, il va à Bologne, on lui donne une cellule et on lui dit « voilà ta cellule ». Et alors il fiche le camp, il claque la porte en disant « je ne veux pas qu'on dise ma cellule ». Parce que ma cellule, c'est l'air de dire que je suis propriétaire et c'est contraire à toute ma vocation. Donc il est obligé de s'adapter, mais en même temps, la réalité, le poids des structures ecclésiastiques, etc. fait qu'il y a un enracinement local qui se produit. Voilà. Donc il vit assez mal ces tensions, c'est-à-dire le passage, disons, de l'idéal à la réalité. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé d'utopie, parce que, non pas pour dire quelque chose d'irréalisable, mais en 1221, lorsqu'il essaye de mettre noir sur blanc par écrit ses idées, sa règle, ce qu'on appelle la première règle, qui n'a pas été approuvée par la papauté, eh bien là, il y a un véritable programme religieux, mais aussi social. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui vivent dans la pauvreté intégrale pour prouver aux hommes que c'est possible, qu'on peut très bien vivre en société et en fraternité sans rien posséder. Oui. Donc non pas ramener tout le monde à la pauvreté, ou... pas du tout. Il ne veut pas créer une société sans classe, ou... il n'a aucune idéologie de type communiste, mais montrer par un témoignage concret et authentique qu'on peut très bien être fidèle à l'Évangile, y compris dans la pauvreté intégrale. Oui. De façon à ce que les autres, bon, qui sont dans le monde, qui sont mariés, qui ont des entreprises, comme on dirait aujourd'hui, bah, ils n'y arriveront pas, bien sûr, mais au moins qu'ils aillent dans ce sens-là. Pour François, c'est le sens même de la vie que de partager ce qu'on a. Ouais.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas plutôt, au fond, une lecture, non pas partiale, mais partielle de l'Évangile ? Est-ce qu'il n'en retenait pas simplement tous les passages relatifs à la pauvreté, alors que, bon, il y a d'autres passages, notamment sur les talents, qui ne se posent pas en contradiction avec l'idéal franciscain, mais qui sont différents ?
Tout à fait, vous avez raison. Il y a une lecture, disons, privilégiée de François par rapport à certains passages de l'Évangile, non pas qu'il préfère à d'autres, mais qu'il privilégie par rapport à d'autres, et en particulier tous les passages où il est question de la pauvreté du Christ, de l'humilité du Christ, ne serait-ce que sa naissance. Il est très fasciné par la naissance du Christ. Quand il naît, il naît dans une étable. Il n'y a même pas de maison pour l'accueillir. Enfin, il naît dans la déréliction totale. Et puis, sa mort, sa passion, tout le monde l'abandonne, il est seul. Et elle, il souffre sa passion aussi dans l'abandon. Donc ça, c'est des moments privilégiés pour lui de méditation, les aspects de la vie du Christ qui le frappent le plus. Oui. Alors, il a une lecture optionnelle, dirons-nous, préférentielle pour ces dimensions-là de la vie du Christ qu'il voit comme une sorte d'incarnation, c'est le cas de le dire, de la pauvreté de Dieu. Parce que alors justement, c'est là que François est très important pour l'histoire du christianisme. Avant lui, on avait insisté surtout sur l'idée du Dieu tout-puissant, du maître du ciel et de la terre.
Le Christ pantocrator.
Le pantocrator, oui. Etc. Et lui, sans contredire du tout cette image, parce que... il est persuadé de l'infinie grandeur de Dieu, il en parle beaucoup, mais en même temps, il dit Dieu est à la fois très grand et très petit, et très humble. Pas et c'est justement par ce côté d'humilité qu'il est proche de nous et que nous pouvons accéder à lui. Voilà. Donc, il introduit dans le christianisme, ou il réintroduit, peut-être certains l'avaient déjà perçu avant, mais en tout cas, il donne une force beaucoup plus grande, une présence beaucoup plus grande à cette idée d'un Dieu, même le nom de mineur, il crée un ordre des frères mineurs. Mineur, ça veut dire petit, humble, modeste. Et donc, Dieu est grand, certes, mais il est surtout grand dans son abaissement, dans son humilité, dans la mesure où il s'est incarné, où il est mort pour les hommes, etc. Oui. Donc, désormais, dans le christianisme, de façon plus forte qu'avant, cette tension entre les deux pôles du divin, le pôle majesté et le pôle humilité-humanité. Oui.
Eh bien, André Vaucher, nous allons nous quitter sur cette image de la tension franciscaine, même si vous le dites, il ne faut pas confondre le franciscanisme et Saint François. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, donc François d'Assise, André Vaucher, paru aux éditions Fayard, et notamment cette troisième partie que nous n'avons pas pu aborder, qui est l'image et mythe de François d'Assise, du Moyen-Âge à nos jours, les différentes lectures de l'œuvre de Saint François. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.